Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ce sont toutes les deux des religions du livre. Vous vous considérez tous deux comme des fils d'Abraham. Voilà ce que l'on peut entendre à propos de l'islam et du christianisme. Lorsque l'on sonde aujourd'hui les Français, l'Église catholique elle-même regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, peut-on ainsi lire dans Nostra Aetate, déclaration du Concile Vatican II sur les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. Alors, que dire de la foi musulmane et chrétienne ? S'agit-il de la même foi? Quelle ressemblance et quelle différence? Une émission Vivante Église ce matin, donc foi musulmane, foi chrétienne. On fait des émissions de temps à autre sur l'islam et ce matin, c'en est une. Il est important d'en faire régulièrement et nous sommes avec le père Jean-Jacques Rouchy, prêtre du diocèse de Toulouse et délégué au dialogue avec l'islam. Bonjour.
Bonjour.
Émission aussi, on le redira à la fin de cette émission, avant chaque pause, en vue d'une prochaine conférence que vous donnez sur ce même thème à l'Institut catholique de Toulouse. Vous avez donc orienté votre prochaine conférence autour de cet extrait de Nostra Aetate que j'ai cité rapidement en introduction. Peut-être ma première question serait, père Jean-Jacques Rouchy, est-ce que vous avez l'impression que pour le grand public, alors vous fréquentez peut-être des cercles initiés, mais pour le grand public, de fait, il y a, on va dire, des monothéismes, mais dans le fond, dans l'esprit des gens, il y a une grande ressemblance entre ces différentes religions. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
Effectivement, les termes employés qui sont un peu passés dans l'usage sans le filtre d'une vérification parlent volontiers des trois monothéismes, des religions abrahamiques. Et effectivement, on trouve dans ces deux religions, et dans le judaïsme aussi d'ailleurs, la volonté, la prétention au sens non orgueilleux du terme, sans arrogance, mais enfin l'affirmation d'être monothéiste. Et effectivement, d'un point de vue, on peut dire métaphysique, ces trois religions parlent d'un Dieu unique. Mais précisément, nous avons le texte de Nostra Aetate qui parle de l'adoration, dans le texte latin, d'un Dieu unique. Il n'y a pas d'article en latin. Donc, est-ce que c'est le même Dieu unique ? Il faudrait voir. Car effectivement, la conception chrétienne de Dieu affirme la trinité des personnes dans l'unité, bien sûr, des natures. Ce qui est une...
Alors, on va en parler après, voilà. Mais juste sur l'opinion courante, père Jacques Rouchy,
dans l'opinion courante, c'est la même chose, alors que lorsqu'on creuse un peu le contenu de la foi, et en particulier l'affirmation théologique de la foi, nous avons des divergences assez importantes qui ont des conséquences dans la spiritualité et même dans la conception de l'homme et de la société. Mais ça, on verra tout à l'heure.
On va en parler au fur et à mesure. Alors, si on va commencer par citer donc ce passage de Nostra Aetate, vous nous resituerez ce grand texte du Concile Vatican II, c'est dans le troisième paragraphe. Je vais le lire, il est un tout petit peu long, mais on va le couper en deux. C'est important de l'avoir en tête. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, citais-je déjà en introduction. Et le texte ajoute « Miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes ». Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Alors on va faire un peu d'exégèse de cette première partie. Il y a quelque chose qu'il faut souligner d'entrée de jeu, c'est que le texte parle des musulmans et pas de l'islam.
Tout à fait. Les relations ne sont pas de religion à religion, mais de personne à personne. Et l'estime que le Concile reconnaît et recommande comme attitude à ceux qui veulent bien l'écouter et l'appliquer, c'est l'estime envers les personnes. Nous n'avons, le Concile ne se reconnaît pas la prétention de juger l'islam, la doctrine islamique. D'ailleurs, personne n'a jamais vu l'islam. On voit des musulmans. Donc l'estime est portée sur les musulmans et on va avoir un certain nombre de termes en latin et donc dans les traductions qui reprennent des termes islamiques. vivant, subsistant, miséricordieux, tout-puissant, tous ces termes reprennent des termes arabes coraniques et ils les reprennent non pas pour adhérer à leur contenu théologique et intellectuel, métaphysique ou philosophique, mais à l'attitude que les musulmans ont envers ce Dieu-là. C'est-à-dire, et tout ça est dans le mot « adore ». Ils adorent donc ce sont les personnes pour lesquelles on a de l'estime et pour lesquelles on demande que tout le monde ait de l'estime, dans la mesure où dans leur attitude spirituelle, ils ont une adoration qui est effectivement semblable à la nôtre, même si le Dieu objet de cette adoration n'est pas défini de la même manière.
Il se trouve que la semaine dernière, on a fait une émission sur Christian de Chergé, et l'invité racontait que Christian de Chergé, donc, lors de ses jeunes années, avant de faire son service militaire, a passé du temps en Algérie, et que sa maman, quand elle voyait les musulmans prier, tout lui demandait d'être très respectueux en disant « il prie ». Il y a un autre préambule qu'il faut faire, c'est toujours dans ce texte, il est dit la chose suivante, « le concile les exhorte, alors en fait c'est nous tous les fidèles, à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. » Il est bon de se le redire actuellement, Père Jean-Jacques Rouchy, est-ce que vous pouvez nous faire un éclairage sur cette exhortation ?
Alors effectivement, de même que le Concile et les chrétiens sont invités à avoir de l'estime pour les musulmans, ils sont invités, et tous les hommes de bonne volonté avec eux, à changer d'attitude, c'est-à-dire à ne pas se situer dans une polémique qui ne sert à rien, ni dans une opposition stérile, mais au contraire, à prendre conscience du passé. Alors, oublier le passé, c'est peut-être un peu brut, hein. Il faut traiter la mémoire pour avancer, c'est-à-dire ne pas se situer en concurrent ni en ennemi, mais de la même manière qu'on admire leur attitude spirituelle par rapport à Dieu, eh bien, nous nous engageons à avoir une attitude concrète de fraternité, de promotion de la justice, de la paix, en nous appuyant aussi sur nos valeurs spirituelles qui ne concernent pas seulement l'adoration de Dieu, mais la vie morale, la prière, l'aumône, le jeûne. Nous avons des valeurs spirituelles communes qui font que nous pouvons travailler ensemble sans chercher à discuter stérilement ni à nous convaincre, mais à faire ensemble des choses positives pour l'ensemble de l'humanité. Et là, nous nous retrouvons.
Alors, si l'on avance un petit peu dans cette déclaration, ou alors si on essaie de la décortiquer, l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un. Faut-il s'arrêter d'abord sur ce Dieu un. J'ai cru comprendre, à force de faire des émissions avec vous et avec d'autres, qu'il y a donc une différence radicale entre l'islam et le christianisme. C'est qu'il n'y a pas de notion de personne divine dans l'islam. Alors, qu'entend-on par Dieu un ?
Voilà. Alors, ce qui est important, c'est ce qui nous unit, c'est notre attitude spirituelle par rapport à Dieu, c'est-à-dire le Dieu que l'on prie, le Dieu dont on veut faire la volonté, le Dieu que l'on peut aimer, en particulier chez les soufis, c'est strictement le même que le nôtre. Le Dieu avec lequel on est en relation de fait, c'est strictement le même. Alors ensuite, lorsque l'on essaie de regarder ce que les doctrines disent de Dieu, c'est là que nous trouvons un certain nombre de différences. Et en particulier, effectivement, dès l'Évangile, Jésus nous rappelle que Dieu est Père et lui se présente comme le Fils. On nous parle aussi du Saint-Esprit. Dans ce que nous appelons des personnes divines qui sont déjà préfigurées dans l'Ancien Testament. Dieu est le Père d'Israël, Israël est le Fils de Dieu, d'Égypte j'ai appelé mon fils. On parle très souvent de l'Esprit de Dieu, on trouve dans l'hospitalité d'Abraham les trois mystérieux personnages dans lesquels les pères de l'Église ont vu une préfiguration de la Trinité. Bref, pour la foi chrétienne, il est essentiel de reconnaître bien sûr l'unicité de Dieu. Il y a un seul Dieu, mais nous croyons que le Christ nous a révélé en quelque sorte le mystère, la façon dont Dieu fonctionne à l'intérieur de lui-même, avec les exigences de la raison qui sont parfaitement respectées, c'est-à-dire que Dieu doit être l'inconnaissable, il est le mystère, Et là, avec l'islam, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Mais là où nous divergeons, c'est que nous pensons que le Christ nous révèle le mystère de Dieu. Car Dieu n'est pas seulement appelé à être connu par nous, mais il veut nous proposer de, partager sa vie.
Alors, dans l'islam,
l'islam, inimaginable. Alors, sauf pour quelques mystiques, pour les soufis, on ne partage pas la vie de Dieu. Dieu est satisfait des croyants. Les croyants sont satisfaits de Dieu dans le paradis, mais il n'y a pas de communion de vie pensable entre la divinité et l'humanité.
Donc, Dieu n'est pas quelqu'un. Comment est-ce qu'on dit dans l'islam, du coup
C'est toujours... Alors, il y a les 99 attributs de Dieu qui nous permettent de cerner un petit peu, enfin qui permettent aux croyants de l'islam de cerner un petit peu, disons, la personnalité de Dieu à travers ses attitudes par rapport à l'homme. Il est clément, miséricordieux, il se souvient, il est rétributeur, il est vengeur, il est... Bon, il y a 99 connotations qui nous donnent un petit peu les attitudes de Dieu par rapport à nous. Mais il est impie de vouloir franchir en quelque sorte la barrière du mystère. Ce n'est pas correct. Tandis que le Dieu de la Bible, et nous sommes là dans une perspective d'un sacré séparé, alors que le Dieu de la Bible cherche le contact parce qu'il veut faire partager sa propre vie. Et donc, il doit être à la fois mystérieux et inconnaissable, mais comment peut-on le connaître ? Alors, nous avons là le thème, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a une parole. Et par cette parole, qui est aussi une action, il peut se faire connaître des hommes. Et c'est pour cela que en Dieu, c'est la parole, c'est-à-dire la capacité d'agir à l'extérieur de son mystère. C'est donc cette parole qui va s'incarner et à l'intérieur d'une vie humaine, d'où l'union hypostatique, c'est-à-dire de l'humanité et de la divinité, dans l'unique personne de Jésus, Dieu est communicable. Et cette communication n'est pas seulement la constatation que l'on peut faire de l'action de Dieu dans le monde, mais véritablement la communication de son esprit, l'esprit qui fait l'unité du Père et du Fils. Nous sommes monothéistes, mais cet esprit qui nous est donné pour nous faire prendre conscience de notre filiation à travers la filiation du Christ, qui a pris condition humaine pour cela, la possibilité est ouverte pour tous les hommes de participer à la vie même de Dieu. Et ça, ce n'est pas dans le Coran. Et pourquoi ça n'a pas été développé ? Parce que ça a l'air d'être irrespectueux, blasphématoire par rapport au mystère de Dieu.
Je vois le temps qui passe, Père Jean-Jacques Rouchy. Hélas, si on continue cette citation, donc l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant. On reviendra sur miséricordieux après. Il est important de préciser cela. On a l'habitude de dire en philosophie chrétienne, si je ne me trompe pas, que Dieu est cause première, mais qu'il laisse en fait les causes secondes que nous sommes, et puis les lois naturelles régir l'univers, que Dieu n'est pas, on va dire, constamment, directement aux commandes de toutes choses, si je puis m'exprimer ainsi. Autant une vision en fait du monde qui est radicalement différente, ou de Dieu, qui est radicalement différente dans l'islam. Expliquez-nous cette cause première, cause seconde.
Voilà, alors tout ça, le Dieu un vivant et subsistant, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde, tout puissant. Alors, la toute puissance de Dieu est vue d'une façon absolue dans l'islam. Et donc, rien ne doit échapper à la puissance de Dieu. Et on va franchir un pas, alors déjà dans la pensée, si l'on peut parler de pensée, des auteurs du Coran et du prophète de l'islam, cette maîtrise absolue de Dieu surtout exclut qu'il y ait quelque concurrence que ce soit pour s'opposer à la volonté de Dieu. Et donc, effectivement, il n'y a pas ce qu'on appelle de cause seconde. Alors, Dieu est la cause première, enfin, c'est une manière aristotélicienne de parler, qui correspondrait assez bien d'ailleurs à la philosophie islamique influencée par Aristote.
Alors juste, cause première, ça veut dire quoi pour
cause
ceux qui...
première, ça veut dire que Dieu est à l'origine absolue de tout, mais on va franchir un pas en disant qu'il est non seulement à l'origine absolue, mais même à l'origine, je dirais, pointilleuse et méticuleuse de tout ce qui se passe. Dieu cause directement tous les événements.
Donc,
je me souviens quand j'étais en Égypte.
Une tempête ou...
Voilà, mes élèves disaient, mais monsieur, moi je ne fais jamais de péché parce que tout ce que je fais, c'est Dieu qui le cause. Alors bon, c'est plus complexe que ça, et dans la philosophie islamique, effectivement, pour certains, les mu'tazilites, il y a quand même la reconnaissance d'une certaine responsabilité à l'homme, mais il est responsable d'accepter ou pas les actes que Dieu lui attribue. Mais de toute manière, pour sauvegarder la toute-puissance de Dieu, il faut que Dieu cause directement toute chose.
Alors, quelle différence avec nous quand on parle de cause seconde, qu'est-ce que ça veut dire?
Pour les autres conceptions, donc Dieu crée l'univers avec ses lois, et ensuite, d'une certaine manière, il les laisse fonctionner. C'est un peu le sens aussi du sabbat. Le septième jour, Dieu se repose et le monde est confié à l'homme. L'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, avec sa liberté, sa volonté. Et c'est lui qui va écrire son histoire. Alors Dieu n'est pas absent de l'histoire, mais d'une certaine manière, l'homme est responsable. Et la nature aussi ayant ses propres lois, eh bien, l'homme est invité à inventorier les lois naturelles, et c'est pour ça, si vous voulez, que le développement scientifique s'est déroulé plutôt dans un monde influencé par la Bible que par le Coran. Parce que s'il n'y a pas de cause seconde, s'il n'y a pas de loi naturelle qui viendrait en quelque sorte contrecarrer l'absolu arbitraire divin, il n'y a pas de loi naturelle à chercher. Et donc, on ne va pas avoir tout ce développement scientifique, justement, de recherche des lois de la nature avec ce mouvement qui consiste à observer les phénomènes, à en tirer des lois qui seront révisables au fur et à mesure que l'investigation scientifique devient plus précise. Et à partir de là, on va échafauder une science qui repose justement sur la conviction qu'il y a des causes secondes.
Dernier terme que j'aimerais qu'on aborde avant de faire une première pause musicale, Père Jean-Jacques Rochy, c'est le miséricordieux. Je pense que ça, à la fois, on se dit que c'est ce qui nous unirait le plus profondément, et en même temps, c'est ce qui fait tiquer peut-être le plus certains. Que faut-il entendre derrière ce thème miséricordieux? Pourquoi l'Église ou Nostra Aetate utilise ce terme?
Alors, ce terme est repris par Nostra Aetate parce qu'il est omniprésent dans la spiritualité des musulmans et même dans les expressions quotidiennes qu'on emploie des centaines de fois par jour. Chaque sourate, sauf la sourate 9, commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire le clément, le miséricordieux. Alors cette miséricorde est quand même une valeur très importante qui nous unit toujours au point de vue spirituel. Alors au point de vue théologique, si l'on peut dire, lorsque lorsqu'on a fini d'admirer effectivement tout le contenu spirituel de cette reconnaissance de la miséricorde de Dieu qui pardonne, qui est infiniment bon, infiniment enfin, mais cet amour, cette miséricorde de Dieu ne va pas jusqu'à l'amour des pécheurs. Car le pécheur, s'il est pécheur, c'est sa faute. Il n'y a pas la notion de péché originel, donc de faille originelle, qui fait que la nature humaine est blessée et donc qu'elle a besoin d'être sauvée. Il n'y a pas le thème du salut dans l'islam. L'homme est un être oublieux, il est faible, il est pécheur, mais il est parfaitement capable de faire le bien à condition que Dieu lui donne une loi. Et c'est tout le thème de la charia. Donc, lorsque les prophètes font descendre les livres sacrés selon la conception musulmane et donnent de la part de Dieu une loi, l'homme a parfaitement le moyen en lui de suivre cette loi. Et s'il ne la suit pas, eh bien, il est rebelle par rapport à Dieu. Et donc, il est pécheur, il est perdu. Et le bon croyant a pour les pécheurs la même haine que Dieu a pour les pécheurs, parce que s'ils ne suivent pas sa loi, c'est leur propre faute, c'est parce qu'ils le refusent. Donc, nous avons tout ce pan du christianisme qui est essentiel, d'un Dieu qui vient sauver l'homme parce que par lui-même il ne peut pas se sauver. Nous sommes là dans des conceptions anthropologiques complètement différentes.
On va faire une première pause. Vous ajoutez dans votre conférence, et en tout cas le document que vous m'avez fait suivre, le musulman, comme Dieu haïra les pécheurs, ennemi de Dieu, l'amour des ennemis est incompréhensible et injuste dans l'islam. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour parler des intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est un autre passage de Nostra Aetate, ce texte donc du Concile Vatican II sur les relations avec les religions non chrétienne. On va parler entre autres donc d'Abraham, de Mahomet, de Jésus et de Marie.
los pecados del mundo. Ten compasión de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten compasión de nosotros.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Foi chrétienne, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec autour du plateau donc le père Jean-Jacques Rouchy, prêtre du diocèse de Toulouse, délégué au dialogue avec l'islam. Alors j'ai oublié de donner le jour de votre prochaine conférence à l'Institut catholique de Toulouse à la fin de la première partie, donc je vous laisse le faire.
Jeudi 21 mai, je crois que c'était 15h.
Jeudi 21 mai, 15h. On aura le temps donc d'en reparler. Si on se penche donc sur certaines grandes figures, en l'occurrence donc les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il s'agit donc de commencer par Abraham. Abraham donc qui est cité dans la première partie du texte Nostra Aetate, hein, qui nous sert un peu de base pour cette émission. Texte donc sur les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. Où il est parlé d'Abraham. Je vais citer le deuxième passage, deuxième paragraphe sur lequel vous vous appuyez pour introduire cette deuxième partie où on parlera aussi donc de Mahomet, de Jésus et de Marie. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère, virginale Marie, et parfois même l'invoquent avec piété, dit ce texte du Concile, je le rappelle. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Alors ce passage ne parle pas d'Abraham, mais il est important de commencer peut-être cette deuxième partie par cette grande figure. Comme je le disais en introduction, on a souvent dans l'idée que nous sommes tous fils d'Abraham. Alors qu'en est-il, Père Jean-Jacques Rouchy ?
Alors, votre deuxième partie se réfère à une phrase, un bout de phrase, Nostra Aetate, Dieu qui a parlé aux hommes. Voilà. Alors, les rédacteurs du texte ont eu la prudence de ne pas reprendre l'article du Credo qui a parlé par les prophètes, parce que ce serait se prononcer sur la question de savoir si Mohammed est prophète ou pas. On en parlera tout à l'heure. Donc, qui a parlé aux hommes et même qu'ils se soumettent de toute leur âme au décret de Dieu, les musulmans, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Voilà, donc là aussi, comme pour Dieu, on va évoquer Abraham comme modèle d'attitude spirituelle sans se prononcer sur ce que le Coran dit à propos d'Abraham. Alors, au point de vue spirituel, effectivement, les juifs donc, se reconnaissent fils d'Abraham, en quelque sorte selon la chair, de la descendance d'Abraham, et même si toutes les nations de la terre seront bénies en lui, dit le texte biblique. Donc, fort de cette affirmation qui est dans la Genèse, d'une certaine manière, les musulmans se reconnaissent dans la foi d'Abraham et les chrétiens affirment aussi qu'ils sont dans la descendance spirituelle d'Abraham, puisque Dieu lui a promis que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Alors, une fois que l'on a affirmé ce cousinage spirituel, où on reconnaît qu'Abraham est le modèle de la foi, puisqu'il est parti vers un pays qu'il ne connaissait pas pour répondre à l'appel de Dieu, ce qui est l'attitude spirituelle qui nous est commune. Lorsque l'on creuse un peu à la fois ce que l'on peut savoir de la réalité historique et de ce qui est dit d'Abraham dans le Coran, nous ne trouvons pas tout à fait la même chose. La foi musulmane va donc se dérouler, enfin la prédication de Mohammed va se dérouler en plusieurs stages, en plusieurs étapes, et Mohammed va d'abord s'adresser aux juifs. Et lorsque les juifs vont refuser son message, et plus tard lorsque les chrétiens vont refuser son message, il va se désolidariser en quelque sorte des juifs et des chrétiens pour se référer à un Abraham qui serait à l'origine de la Mecque. Donc,
vous dites que c'est hautement improbable. C'est...
Voilà. Donc, le texte biblique, effectivement, nous parle donc d'Abraham, de la servante Agar, de son fils Ismaël. Et il y a un écho de ce texte biblique qui se retrouve dans le texte coranique, mais en finalement captant pour les descendants d'Ismaël la descendance abrahamique pour fonder la prééminence de l'islam sur les autres religions dites monothéistes, mais avec lesquelles on va se reconnaître une sorte de fraternité, enfin religion abrahamique, religion du livre. Alors l'Abraham du Coran, d'abord, d'un point de vue historique, ce qui est un petit peu gênant, alors est-ce qu'Abraham a véritablement existé historiquement ou pas? C'est controversé, toujours est-il qu'on a retrouvé des tablettes en cunéiforme vers le 18e siècle avant le Christ, où sur des contrats commerciaux, le nom d'Abraham figure. Donc il y avait au XVIIIe siècle des personnes qui s'appelaient comme ça. Nous avons la migration d'Abraham dans la Bible, dans ce qu'on appelle le croissant fertile. C'est-à-dire, on part entre le Tigre et l'Euphrate, on va jusqu'au sud de la Turquie, tout le littoral palestinien, et on s'arrête au delta du Nil. Donc il est hautement improbable que si Abraham a existé, il soit allé à la Mecque. Et on a de forts doutes sur l'existence historique de la Mecque avant l'ère musulmane. Donc, d'un point de vue, si vous voulez, historique, cette prétention abrahamique ne tient pas beaucoup. Alors, spirituellement, bon, il y a des valeurs communes, mais enfin, c'est un peu gênant que la spiritualité ne puisse pas reposer quand même sur au moins une vraisemblance historique. Alors, l'Abraham du Coran est le modèle de l'anti-idolâtrie. Et beaucoup d'allusions coraniques à Abraham vont reprendre plutôt des éléments du Talmud, c'est-à-dire de la tradition orale juive et non pas de la tradition écrite biblique, pour montrer Abraham comme fils d'un fabricant d'idoles qui va être obligé de quitter la Mecque parce qu'il a cassé les idoles de son père. Et donc, l'auteur du Coran ou les auteurs du Coran vont reprendre, avec d'ailleurs une belle orchestration poétique, Abraham refuse d'adorer le soleil parce que le soleil se couche et donc on ne va pas adorer quelque chose qui disparaît. Enfin, des choses très, très belles, mais qui sont toujours dans cette perspective, je dirais, d'un monothéisme un petit peu natif et qui n'a rien à voir avec la découverte progressive par Abraham dans son itinéraire spirituel de Dieu. Et évidemment, bon, il y a la différence majeure avec le... Alors, on retrouve la ligature d'Isaac, mais c'est plutôt Ismaël.
Alors, on va avancer, si ça vous embête pas. Et comme je vois le temps qui passe, pardon pour les musulmans qui, par hasard, nous écouteraient, mais on va s'en tenir au texte de Nostra Aetate, aux figures évoquées dans ce texte. Donc, on ne parlera que de Jésus et Marie. Alors, Jésus, donc fils de Marie, naissance miraculeuse, qui est moins cité donc, dans le Coran qu'Abraham et que Moïse, qui est reconnu comme Messie, qui a une place, en fait, très particulière dans l'islam. Un homme ordinaire, qui mange et qui boit, mais qui est aussi donc un grand prophète et qui même a une place particulière dans l'histoire du salut chez les musulmans. Dites-nous, qui est ce Jésus de l'islam ?
Alors, le Jésus de l'islam, c'est très compliqué. Parce que si l'on regarde, si l'on s'en tient au texte coranique et non pas aux interprétations historiques, on est frappé, du moins moi, de trouver beaucoup de connotations qui sont évangéliques. En particulier, on va vous dire que Jésus et sa mère ont été élevés au-dessus des mondes. On va dire que Jésus est Messie. On va dire que Jésus est le signe de l'heure. On va dire que Jésus est parole de Dieu. Kalimatullah ou Kaulullah. Donc, tous ces termes, si on les prend dans leur sens arabe coranique...
C'est pareil, Messie, qu'est-ce que ça veut dire en islam, du coup ?
Alors, Masih, le Masih, pour le judaïsme, c'est pour l'hébreu, celui qui a reçu l'onction, qui a été oint. Et les auteurs du Coran vont reprendre ce terme tel quel. Et les commentateurs vont être très vite gênés parce que le Messie pour le judaïsme et a fortiori pour nous, c'est l'envoyé de Dieu pour établir le paradis sur terre et pour introduire les hommes au paradis. C'est celui qui est promis justement dans cette perspective d'un salut, car le salut n'est pas dans le Coran. Le salut est dans la Bible dès l'origine, c'est-à-dire dans le récit dit du péché originel, ce qui est révélé en premier, c'est le salut, dont le péché est décrit, mais après il y a la promesse d'un salut, et toute l'histoire biblique va être l'histoire du salut.
Donc en tout cas, si on en revient donc à ce Jésus, donc, il a donc des grands attributs.
Donc le fait que Jésus est Messie, non, il est parole de Dieu, il est signe de l'heure, il a été élevé au-dessus des mondes et il
a fait des miracles.
Alors la grande différence, c'est que le Coran, de façon très précise, nie que Jésus soit Dieu, parce que ce que le Coran dit de Jésus le limite, effectivement, comme vous l'avez dit, à une humanité extraordinaire, mais une humanité qui ne peut en aucun cas être unie à la divinité. Là, on retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'impossibilité finalement du contact, du partage de vie. Donc de même que l'homme ne peut pas partager la vie de Dieu, Dieu ne doit pas, il n'est pas convenable que Dieu partage la condition humaine. C'est impensable. Donc on va reconnaître, alors c'est un peu triste si vous voulez d'un point de vue spirituel, on va reconnaître pratiquement beaucoup de contenu biblique et même évangélique sur Jésus, mais les auteurs du Coran vont s'arrêter devant cette impossibilité pour eux à la fois spirituelle et métaphysique de penser que dans une même personne il puisse y avoir sans confusion et sans mélange, sans division et sans séparation, l'union parfaite entre Dieu et l'homme en respectant parfaitement les deux natures.
Alors ensuite Dieu, comment dire, alors, un prophète ne peut pas échouer, voilà. Donc c'est pour ça que Jésus ne serait pas mort sur
Jésus
la croix.
Ne doit pas mourir sur la croix, puisque, si vous voulez,
il aurait été enlevé auprès de Dieu.
Voilà, parce que le prophète de l'islam va juger, va considérer tous les autres prophètes d'après ce qu'il pense de sa propre expérience spirituelle et vitale. Et comme lui va finir sa vie par le triomphe en conquérant la Mecque et en établissant un État musulman et une religion, eh bien, pour lui, tous les prophètes, puisque lui est prophète et qu'il a cet itinéraire-là, tous les prophètes doivent avoir le même que lui. Et donc, comme Jésus est prophète, Jésus ne peut pas échouer et donc il ne peut pas mourir sur la croix. Il y a une logique très 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 claire et très très pertinente en quelque sorte, mais qui s'oppose justement à cet amour d'un Dieu, d'un Dieu qui va aimer les pécheurs jusqu'à mourir pour eux et donc jusqu'à prendre la condition humaine.
Alors, on pourrait dire encore plein d'autres choses sur Jésus, entre autres sur sa place peut-être à la fin des temps, mais il faut qu'on avance parce que sinon le temps passe trop vite. J'aimerais qu'on passe maintenant donc à la figure de Marie. Alors, je recite le passage de Nostra Aetate. Ils honorent sa mère virginale Marie et parfois même l'invoquent avec piété. J'ai même entendu dire qu'il y avait des musulmans qui allaient à Lourdes.
Tout à fait.
Marie donc est citée 24 fois.
J'ai même eu la joie d'en accompagner un petit groupe.
Marie est citée 24 fois dans le Coran. C'est la seule femme qui est appelée par son nom propre. Et il y a un passage du Coran, j'avoue, moi, quand je l'ai lu, que j'ai trouvé ça extrêmement frappant, qui décrit la conception virginale de Jésus, en Marie, dans des termes qui sont presque ceux du récit de l'Annonciation.
Tout à fait. On retrouve dans la sourate 3, pratiquement, l'évangile de Luc, au premier chapitre. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une vierge nommée Marie. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on a exactement donc la naissance de Jésus qui est affirmée très clairement, sans aucune intervention humaine, avec l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu est-ce que l'Esprit c'est l'ange Gabriel ou est-ce que c'est Jésus ? Parce que Jésus est appelé aussi parfois Esprit de Dieu. Et là, il y a une confusion de la part de l'auteur du Coran qui n'a pas capté que l'Esprit Saint était quelqu'un de distinct de Jésus. Donc, il y a une sorte de confusion. Donc, Dieu envoie son Esprit dans Marie et cela donne le Christ. Alors, pour éviter que l'on en tire des conclusions trop hâtives sur sa divinité, on va dire que c'est deux fois moins difficile que pour Adam. Adam a été fait sans père et sans mère. Bon, il ne faut pas induire de la naissance miraculeuse de Jésus qu'il soit divin, parce que c'est moitié moins difficile, puisqu'il y a quand même une mère.
Alors, qu'est-ce que ça signifie, du coup, dans l'islam, cette naissance miraculeuse ?
La difficulté pour concevoir que le Christ soit fils de Dieu, c'est que, autant la naissance miraculeuse d'un prophète n'est pas gênante, autant affirmer que Jésus serait le fruit d'une union, en quelque sorte, charnelle entre Dieu et Marie, c'est ça qui est refusé. Et effectivement, la foi chrétienne ne dit pas qu'il y a une union charnelle entre Dieu, qui est spirituel, et Marie. L'auteur du Coran n'a pas compris que ce que nous appelons l'incarnation, c'est l'action de Dieu qui va se manifester de façon spirituelle. Et donc, il faut faire la distinction. Alors, ce que le Coran refuse, c'est que c'est que Jésus soit walad d'Allah, c'est-à-dire résultat d'une union charnelle. Mais ce n'est pas ce que disent les chrétiens arabes, il est Ibn Allah. Donc il y a deux termes, si vous voulez, et le deuxième exclut justement cette compromission de Dieu dans un acte charnel, et c'est ce que le Coran a compris quand nous disons qu'il est fils de Dieu. Donc il y a un malentendu fondamental, et à partir du texte coranique, on pourrait s'expliquer en disant que nous ne croyons pas que Dieu a couché avec Marie.
Alors, quand il est dit dans Nostra Aetate, ils honorent sa mère virginale Marie et parfois même l'invoquent avec piété.
Tout à fait. Alors, il y a depuis les origines une piété populaire, en particulier de la part des femmes musulmanes envers Marie. Et Marie est présentée dans beaucoup de traités de spiritualité musulmane comme un modèle de foi. Car comme Abraham, si vous voulez, Marie... Alors, on a un morceau de Saint-Luc là, qui est pratiquement inséré dans la sourate 3, mais on a tout un développement spirituel sur l'attitude de Marie qui est à imiter par les musulmans en ce qu'elle fait absolument confiance à Dieu. Et en ce sens, elle est musulma, c'est-à-dire elle s'en remet entièrement à Dieu. Et c'est cette attitude spirituelle qui va être l'objet d'une admiration et peut-être aussi d'une prière, même si là aussi, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes.
On va faire une deuxième pause et puis on vous retrouve, Père Jean-Jacques Rochy, pour cette émission donc foi musulmane, foi chrétienne, en vue d'une prochaine conférence donc à l'Institut catholique de Toulouse le 21 mai prochain. 21 février, en effet, on s'était trompé tout à l'heure et ça me paraissait bizarre. 21 février, on fait une courte pause et on vous retrouve. Thank you.
Présence à Auch 89.6. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Foi musulmane, foi chrétienne, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Jean-Jacques Rouchy, prêtre du diocèse de Toulouse, délégué au dialogue avec l'islam. Et donc, mea culpa, c'était à moi de bien chercher le jour et l'heure de la conférence. Cette conférence est le 21 février à 16h à l'Institut catholique de Toulouse. Je redonnerai cette information à la fin de cette émission comme il se doit. Voilà, dans cette dernière partie, si on continue à se pencher sur donc cet extrait de Nostra Aetate, donc je rappelle ce texte qui parle de la relation de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes, texte du Concile Vatican II. Il est parlé aussi du jugement, du salut, de la résurrection, bref, de l'avenir ou de l'espérance des uns et des autres. À propos de l'islam, il est dit la chose suivante: « De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. » Et puis le texte continue. Je voulais qu'on s'arrête là-dessus et vous tenez à préciser que la manière dont Dieu agit dans le monde, le fait qu'il soit cause première ou cause seconde, a quelque influence donc sur la vision que l'on a du monde. Vous l'avez expliqué pour la science.
Dieu n'est pas cause seconde.
Cause première, pardon. Dieu est cause première en islam. En tout cas, ça induit donc des rapports au monde qui sont très différents pour l'islam. En fait, et je l'ai découvert en préparant cette émission, le mieux est en arrière. Expliquez-nous cet idéal historique qui traverse l'islam.
Voilà, alors c'est une des différences essentielles qui a des conséquences évidemment fondamentales pour le fait de vivre dans une même société, parce que nous n'avons pas le même idéal historique. Non. Le Coran est considéré comme étant éternel dans le ciel auprès de Dieu et il descend sur les prophètes. Donc son auteur est Dieu directement. Et comme le Coran ne contient pas seulement des considérations spirituelles, liturgiques ou morales, mais vraiment une charia, c'est-à-dire une façon de se comporter, comme cette façon émane de Dieu lui-même, elle est parfaite. Et comme la première incarnation dans l'histoire de cette loi de Dieu est donnée et je dirais mise en œuvre par le prophète de l'islam, qui est à la fois celui qui reçoit le texte et celui qui le fait appliquer. Donc l'état de Médine, donc de 619 à 632 jusqu'à la mort de Mohammed, est le maximum de l'idéal historique que l'on peut atteindre.
Et des quatre, des quatre califes suivants, si j'ai bien compris.
Voilà, et les quatre califes suivants, donc on peut aller effectivement jusqu'en 654, 661, jusqu'à la mort de Othman, de Ali, pardon. Donc, nous avons là quelques décennies qui sont considérées comme le modèle absolu, non seulement de la religion, mais aussi de la société. Et donc, tout le mouvement, il n'y a pas cette conception d'une révélation progressive.
Donc, il n'y a pas de notion de progrès.
Il n'y a pas cette conception d'un progrès. Si vous voulez, le top niveau de civilisation a déjà été réalisé dans le passé. Donc, logiquement, ce qui va être le mieux pour l'homme, c'est de se rapprocher du plus près possible de cet état de civilisation. Alors que pour la Bible, justement, nous avons ce mythe du paradis perdu, où on ne peut pas rentrer, on ne doit pas rentrer. L'ange au glaive de feu empêche, alors tout ça est symbolique,
mais c'est Adam et Ève,
de rentrer dans une sorte de monde idéal qui aurait existé à l'origine. Et toute la Bible va être, au contraire, l'attente active d'une espérance, et de même que Dieu va se révéler progressivement, l'histoire, malgré les hauts et les bas, va vers le mieux. Et le mieux, c'est l'espérance qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps. Jésus va annoncer le royaume, dont le royaume est déjà là en croissance, en puissance, et même il va se manifester en acte. Et cela va donner l'idée donc d'un idéal historique qui sera, pour reprendre un terme qui a été philosophiquement un peu capté, en particulier par le marxisme, de la fin de l'histoire. Alors la fin de l'histoire n'est pas dans l'histoire, mais selon déjà la conception biblique, en particulier dans l'Apocalypse, lorsque la Jérusalem céleste descendra du ciel et viendra recouvrir la Jérusalem terrestre qui aura préparé par l'effort humain conjoint à la grâce de Dieu Sauveur, qui aura finalement amené un progrès jusqu'au royaume.
Alors que dans l'islam, en fait...
Dans l'islam, le progrès, il est étouffé puisqu'il a été réalisé à l'origine. Ce qui va aussi compromettre un certain mouvement scientifique qui, justement... prend en cause les causes secondes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu les a créées, mais après elles fonctionnent toutes seules. C'est là, il y a une autonomie du créé qui n'est pas dans l'islam. Et donc on va retrouver la même logique, de même qu'il n'y a pas des lois de la nature à découvrir, puisque Dieu fait tout. Alors même s'il y a une habitude divine, en particulier dans le calendrier, auquel on peut se fier un petit peu. Et donc cette espérance historique va quitter le monde religieux pour donner la notion de progrès. Et de même que les trois personnes divines qui sont égales et distinctes en dignité vont donner le modèle de la personne humaine. Alors nous avons ces deux valeurs qui sont le fondement de la modernité et des civilisations marquées par la Bible, avec donc l'idée du progrès et l'idée de la personne, ce qui va donner les droits de l'homme. Donc, vous voyez, à partir de ces différences de conception, en particulier de l'origine du livre et de l'idéal historique, nous avons une situation par rapport au vivre ensemble aussi, à l'idéal concret qui est en distance et qui explique un petit peu les difficultés que nous avons pour faire société ensemble.
Père Jean-Jacques Rochy, pour finir, dans l'islam, où Dieu donc, est cause première et il agit donc, directement, et où Dieu se révèle donc, à travers ce livre et où... Une fois pour toutes, et puis comme vous nous l'avez expliqué...
Et parfaitement au début.
Dans des temps idéaux, donc avec un idéal historique en fait qui est passé, qu'il s'agit de reconquérir en appliquant, retrouver en appliquant au mieux la charia. Est-ce que ça a quelque influence aussi sur l'idée que les musulmans se font de la fin, on va dire, de la fin des temps, du jugement, bref, de leur mort en tout cas, et de la mort, on va dire, généralisée.
Alors,
à la fin de l'histoire.
Nous trouvons, si vous voulez, un imaginaire un peu général, avec donc la fin du monde matériel, avec tout un procédé de jugement, d'ailleurs assez influencé par les conceptions plus iraniennes, d'ailleurs, que bibliques, avec donc... tout cesse, il y a l'extinction complète, tout le monde ressuscite pour être jugé. Donc, je vous passe sur les détails, surtout le hadith et les traditions postérieures qui vont avoir un luxe de détails sur les événements dont eschatologiques de la fin des temps.
Et on ressuscite aussi charnellement.
On ressuscite aussi charnellement. C'est la même conception. Enfin, là aussi, il faudrait voir ce qu'on dit quand on parle de résurrection de la chair. C'est-à-dire de la condition humaine dans sa totalité. Bon, ce qui ne veut pas dire que dans l'éternité, nous aurons le même type de corporéité que nous avons maintenant. Nous aurons la même... Notre intériorité va avoir, dans les conditions éternelles, sans espace et sans temps, une corporéité adaptée à une condition où il n'y a plus ni espace ni temps. Donc, ce n'est pas la résurrection de la viande. Donc, c'est tout ce qu'est l'homme qui va accéder à une autre dimension où nous nous retrouverons bien sûr nous-mêmes, mais bon, transformés par les tel qu'enfin en lui-même, l'éternité le change.
Mais est-ce que du coup, cette manière très directe, on va dire, de Dieu de tenir l'histoire et de s'adresser aux hommes, est-ce que ça influence aussi sur l'idée qu'ils se font du jugement, les musulmans?
Alors, il y a à la fois une immense confiance en Dieu, en sa miséricorde, mais on n'est jamais sûr du salut, parce que si on est sûr du salut, ce serait une atteinte à l'absolu arbitraire divin. Donc, à la fois, on a quand même un peu confiance, parce que Dieu est bon, miséricordieux, puis si on est monothéiste, on est quand même sûr de son salut, mais on ne peut pas obliger Dieu à s'en tenir finalement aux règles qu'il a lui-même fixées, parce que ce serait empiéter sur ses prérogatives. Donc il y a un hadith qui dit, voilà, Dieu prend une poignée de poussière dans sa main droite, le jette derrière son épaule, c'est ceux qui vont au paradis. Dieu prend une poignée de poussière dans sa main gauche et le jette par-dessus son autre épaule, c'est ceux qui vont en enfer. Pour montrer que Dieu n'est pas tenu, même par sa miséricorde. Bon, et donc, ça suscite une sorte d'inquiétude par rapport au salut qui fait que l'on se sent d'autant plus obligé de pratiquer la charia le plus près possible. Il y a une sorte de pression que nous avons connue aussi d'ailleurs dans le catholicisme, et dont Luther, finalement, a un petit peu, au XVIe siècle, libéré le christianisme en disant « bon, nous sommes sauvés ». Donc on n'a pas à se préoccuper de faire notre salut. D'ailleurs, le salut, il est gratuit, mais nous avons à accueillir les bonnes œuvres que la grâce de Dieu nous donne de faire, et c'est cela qui doit monopoliser notre action plutôt que la hantise du salut. Voilà, donc pour dire que nous avons connu aussi, dans notre longue histoire, une sorte d'angoisse par rapport au salut, mais qui demeure un petit peu chez les musulmans, sauf peut-être chez les soufis, qui développent davantage cette confiance absolue en Dieu.
Eh ben, merci beaucoup, Père Jacques Rochy, toujours pour votre érudition et votre pédagogie. Pour ceux qui voudraient aller plus loin ou qui voudraient quelque part réentendre en grande partie ce qui a été dit ce matin, même si la conférence est plus longue que cela ou plus détaillée, rendez-vous est donné donc le 21 février à 16h à l'Institut catholique de Toulouse. Et pour me faire pardonner de ne pas avoir cité correctement l'horaire, je ne manquerai pas de le faire dans le cadre d'Église Actualité. Merci beaucoup, Père Jean-Jacques Rochy. Cette émission était réalisé par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.